Eh bien, bonjour à tous, et puis c'est sympa de vous avoir tous ici ce matin, vraiment. Vous savez que 80% des enfants de Dieu, c'est Rebecca qui nous a rappelé ça au début du camp, ont pris la main du Seigneur, ont rencontré cœur à cœur le Seigneur avant leur âge de 21 ans. 80% des enfants de Dieu ont rencontré le Seigneur avant l'âge de 21 ans. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas des 20% qui restent. Donc, vous êtes tous là ce matin. Je pense que c'est l'occasion. On va encore se rappeler vraiment qui est notre Jésus. Ce Jésus qui est venu à notre rencontre. Vous savez, cette semaine, avec des enfants, on a abordé ce sujet des rencontres de Jésus. Jésus est venu sur la terre. On va voir pourquoi il est venu. Il est venu pour rencontrer les hommes, pour rencontrer les femmes, rencontrer les enfants. Pour lui, aucune porte ne peut être fermée. Il veut toutes les ouvrir et particulièrement celle de nos cœurs. Et on a été vraiment bénis pendant cette semaine de voir l'action du Saint-Esprit, comment Dieu dans sa plénitude peut intervenir et agir déjà à nous, enfants de Dieu, pour nous transformer. Et chaque étape, chaque camp que nous faisons, moi ça fait le cinquième là que je m'engage et je vois chaque fois Dieu me vient me rencontrer particulièrement dans ces circonstances. Et je suis sûr que vous demandez à chacun des moniteurs, aide-monitrices, bénévoles, il y a quelque chose que nous vivons particulièrement fort dans cette semaine. Et donc, ce que je voudrais aborder ce matin, c'est un sujet des rencontres, encore une rencontre de Jésus, mais avant, je voudrais vous présenter, faire un survol un peu de tout ce plan que Dieu a mis en œuvre. Dieu, Créateur, et notre Créateur, il est passionné par nous. Il est passionné. Et vous allez voir un peu comment, de quelle façon... Ah oui, c'est moi qui ai la zapette. De quelle façon Dieu a parlé de différentes façons, de différentes manières, pour venir nous rencontrer, pour venir nous interpeller. Et la première chose qu'il a utilisée, ça a été la création. Dieu a dit et la chose fut. Dieu a parlé et la chose a été. Il a parlé, l'univers a été. Et la conséquence, finalement, de sa parole, il a vu que tout ce qu'il avait créé, ben, c'était bon. Déjà, première parole, création. Et c'est bon. Et l'univers est ainsi un formidable support de communication par lequel nous pouvons, nous, chacun, venir rencontrer Dieu. Et Dieu, donc, a placé les hommes et les femmes sur la terre. Et pour se faire vraiment connaître d'eux et pour y rétablir établir une relation forte. La relation Dieu avec les hommes, c'est la clé vraiment de l'harmonie sur la terre. Mais à partir de la chute, ben, les choses finalement se sont dégradées et tout le plan de Dieu a dû être remanié à cause de l'accumulation constante du péché. Et désormais, sans conscience de l'œuvre de Dieu, les hommes se sont éloignés toujours plus de Dieu. Pour Dieu, depuis, les hommes n'ont aucune excuse. Ils n'ont pas d'excuses car malgré toute son œuvre et la puissance qu'il a manifestée, ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas reconnu comme étant le Dieu Tout-Puissant. Il y a un verset dans la parole qui nous dit que toutes ces perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que Dieu a créé et a créé pour venir nous rencontrer. Et devant ce refus, finalement, Dieu n'insiste pas. On a rappelé cette semaine aux enfants que Dieu ne veut pas forcer les portes. Il veut les ouvrir, il veut qu'on les ouvre par nous-mêmes, mais il ne veut pas les enfoncer. Et si les hommes refusent, c'est la fuite en avant, c'est la débâcle la plus totale. Parce que sans Dieu, il n'y a pas d'espoir. Sans Dieu, c'est là, comme il est dit, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence vraiment de lumière. Mais connaître Dieu, je voudrais juste faire une parenthèse, connaître Dieu ne suffit pas forcément. Faut-il encore le glorifier? Si on est là ce matin, vous avez vu, les enfants, naturellement, ils glorifient Dieu, parce qu'ils sentent cet amour proche d'eux. Et moi, les adultes, on y reviendra, mais je vous encourage à repenser à votre cœur d'enfant et être sensible à l'amour que Dieu veut ce matin encore vous rappeler. L'importance de glorifier Dieu. L'importance de glorifier Dieu, c'est justement parce que sans cela, il y a un risque pour nous-mêmes de s'égarer, de ne pas reconnaître Dieu comme étant le Dieu Tout-Puissant, un Dieu Sauveur, un Dieu Créateur, un Dieu Aimant. Il y a un risque pour nous de s'égarer. C'est ce que dit la parole de Dieu là. Il y a un risque pour nous aussi de tomber dans les ténèbres. Et ça s'adresse à tout le monde. Il y a peut-être des croyants qui juste se disent « je crois en Dieu, moi, c'est bon ». Croire Dieu ne suffit pas. Il faut le glorifier, il faut l'honorer, il faut le craindre, l'aimer jusqu'à oser lever les mains vers lui et l'adorer, incliner son cœur à la louange vers lui. Vous savez, dans ce monde, qu'est-ce qui est proclamé ? Dieu est loin, Dieu est mort, Dieu n'agit plus. Oui, dans ce monde, ça va être comme ça que ça se passe. Dieu ne va plus rien faire puisqu'on proclame un Dieu absent. Nous, ici, on proclame un Christ vainqueur, un roi victorieux, un Dieu plein d'amour et de grâce. Et vous savez, Dieu, il se rapproche de nous et il se manifeste ainsi que nous le proclamons. Moi, je connais un Dieu victorieux dans ma vie parce que je le proclame victorieux. J'ai pu partager des témoignages de ma vie victorieuse avec les enfants et c'est la louange qui déborde mon cœur dans ce sens. La louange, la glorification de Dieu, c'est vous savez, vous connaissez l'effet kiss cool, double effet. Là, j'appellerai l'effet press cool. La louange fraîche, c'est vous louez Dieu, vous honorez Dieu, vous l'élevez, et Dieu se revient vers vous comme une vague fraîche, là, telle que vous l'avez honoré. Si vous l'aimez, vous proclamez un Dieu fidèle, vous allez voir, il va être fidèle envers vous. Pensez à cet effet preschool. Bon, je ferme la parenthèse, mais quand même pour rappeler l'importance d'honorer Dieu, de glorifier Dieu. Donc Jésus veut nous rencontrer. Et malheureusement, ce qui s'est passé, les hommes n'ont pas compris ce message-là de la création. Et ils se sont égarés, et dans cette situation désespérée, dans laquelle étaient les hommes, Dieu n'a pas eu d'autre choix de provoquer le déluge et de ne sauver seulement 8 humains. Et à partir de là, il y a une nouvelle descendance qui a vu le jour. Et le temps passé, et Dieu a été touché par la foi d'un homme, a été touché par la foi d'Abraham. Et Dieu, à partir d'Abraham, il s'est choisi un peuple, d'un Dieu finalement de la création qui était plutôt distant. Il était distant de ses créatures à cause aussi de la désobéissance qui les avait éloignés. Ben Dieu désire là faire un pas et s'approcher à nouveau d'eux. Et fidèle à ses promesses et malgré les errances de ce peuple, ben Dieu décide d'écrire les tables de la loi. Lassé de la désobéissance de son peuple, il écrit de son doigt la loi, les 10 commandements. Et sur ces tables de pierre, issue de la création, hein, matière minérale, Dieu prend son doigt et il écrit, il grave dans la pierre, dans le roc, ses 10 commandements. Et ces ordonnances-là sont données pour l'instruction de son peuple. Et vous savez, avant la loi, mis à part quelques hommes que Dieu a quand même suscités, il y a toujours des exceptions avec Dieu qui confirment les règles, tous les hommes ignoraient ce qu'était le péché. Car c'est la loi qui révèle le péché. Les 10 commandements ont bien sûr été écrits pour fixer un cadre universel aux principes de vie, donc qui étaient basés sur nos actes et les conséquences à nos actes. Et c'est dans ce sens-là que la loi, elle est sainte, elle est bonne, car elle révèle ce qui est bien et ce qui est mal. Mais donc grâce à elle, la notion de péché a pu voir le jour. Je dis grâce à elle, la notion de péché a pu voir le jour. Oui, le péché, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Mais comment on aurait pu comprendre, avoir notre intelligence, nouvelle intelligence pour comprendre que le péché nous éloignait de Dieu. Et avec le péché, la condamnation, la mort, qui l'accompagne aussi avec le jour. Mais Dieu n'en est pas resté là. Il y a eu la loi, c'est vrai, mais Dieu a suscité des prophètes. Et vous savez ce qu'ils se sont évertués à dire, les prophètes ? Repentez-vous, revenez à Dieu. Parce qu'il n'y avait aucun homme qui pouvait prendre ce qui était gravé dans le roc pour le graver dans son cœur. C'était seulement gravé sur le roc. Et il y avait des hommes qui ont dit, non, le péché, reviens quand même à Dieu. Reviens à Dieu, reviens à Dieu, reviens à Dieu. Et donc, avec cette notion de péché, Dieu a fait naître aussi la notion de repentance. Et avec la notion de repentance, la notion du pardon. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Dieu est puissant. Il ne veut pas seulement nous juger, il ne veut pas seulement nous condamner. Graver un texte qui nous oblige et qui nous rend incapables et indignes de lui. Il veut aussi venir à notre rencontre et nous dire, comme il a dit avec tous les prophètes, repentez-vous, revenez à Dieu. Et vous savez, le dernier prophète, qui s'appelait Jean-Baptiste, juste avant Jésus, ça a été son message. Il n'a pas arrêté dans le désert de prêcher, repentez-vous. Il a même allé jusqu'à instaurer un signe, le baptême de repentance, un baptême, un signe physique pour dire, repentez-vous. Et donc, parallèlement au texte de la loi qui est gravé dans la pierre, Dieu s'est montré comme étant miséricordieux. Et c'est pour cela que Dieu envoie ses prophètes, nous exhorter. Et ça continue, finalement, plus on s'éloigne de la date de la création, plus l'homme a cette notion de Dieu un peu diffus et contradictoire, plus Jésus veut s'approcher au plus proche de nous. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va envoyer son Fils. Après avoir parlé par la création, après avoir parlé par la loi et les prophètes, il parle par son Fils. Ce Fils qui était donc le Créateur, il était avec lui, avec Dieu, hein. Il était avec le Créateur et il était aussi héritier, héritier de toutes choses. Il était au-dessous, il avait tout pouvoir. Et quand il est venu sur la terre, parce que Dieu a voulu envoyer son Fils pour se rapprocher encore plus de ses créatures, de ces hommes et ces femmes et enfants en qui il avait mis en lui cette pensée de Dieu. Ce Fils-là a accepté de revêtir vraiment la nature humaine, mais de façon complète, avec toutes ses faiblesses, et de prendre une forme de serviteur. Qui oserait faire ça ? Un Dieu héritier, créateur, tout-puissant. Bien qu'il soit fils, il a appris ces choses-là et il a appris à se soumettre. Et donc, malgré finalement tout le long de son parcours sur la terre, malgré les tentations du diable, il a été rejeté par l'humanité, les souffrances qu'il a endurées, il s'est humilié en obéissant jusqu'à la mort. Et ses statuts d'héritier et de créateur, lui permettait d'arrêter totalement ce processus. Pourquoi aller jusqu'au bout ? Non, c'est le Fils qui a parfaitement obéi. En donnant volontairement sa vie et en prenant autorité sur la mort. Vous savez, cette histoire de la mort, elle est unique dans toute l'humanité. Il n'y a aucun homme qui est mort comme Jésus est mort. Ça, c'est les soldats romains qui étaient là, qui ont vu ça, qui étaient spectateurs. Quand ils étaient au pied de la croix, ils ont vu, il n'y a pas eu de mort comme ça, c'est pas possible. Cet homme était Dieu. Mais pourquoi ? Parce que la mort, c'est lui-même qui l'a donnée. C'est un concept, c'est encore humainement, on a du mal à le comprendre. La mort, elle nous vient là, et puis on n'est plus. Non, il a devancé la mort. C'est lui qui a dit maintenant, je remets mon esprit. Maintenant, c'est moi qui prends autorité sur la mort, qui prend autorité sur celui qui avait le pouvoir de la mort et qui dit maintenant c'est moi qui décide de mourir. Mais comment Dieu peut-il mourir ? Mais justement, il ne peut pas mourir. Donc c'est par sa propre volonté qu'il est rentré. Mais cette puissance de vie finalement qu'il avait en lui, cette énorme vie qu'il avait en lui, ben, il ne pouvait pas rester plus de 3 jours dans le tombeau. Cette vie devait éclater, cette vie devait exploser. Et c'est ce qui se passe, il ressuscite. Mais quel homme sur la terre a fait ça? Seul Christ a fait ça. Et il a fait ça pour nous faire découvrir encore le pardon. Mais un pardon passionné, un pardon, tous ces péchés qui nous éloignaient, toute cette loi qui nous condamnait, il fallait seulement que un sacrifice, quelqu'un paye à notre place, et c'est lui qui a accepté, le Fils de Dieu a accepté de payer à notre place. Et cela a pour conséquence que finalement la relation aimante entre Dieu et chacun de nous est rétablie, et ceci pour notre plus grande bénédiction. Enfin, nous pouvons prendre conscience pleinement de toute l'œuvre de Dieu et le glorifier vraiment tel qu'il est. Que ce soit pour sa puissance, par la puissance de sa science, que ce soit qu'il a démontré par la création, que ce soit pour sa justice et sa miséricorde qu'il a démontré par la loi et les prophètes, et que ce soit pour son amour qu'il a démontré par son Fils, nous pouvons maintenant glorifier pleinement ce Dieu si grand et si puissant, et nous souvenir avec passion, vraiment, du pardon de Dieu. Alors vous voyez, je vais inviter Pierre et puis Philippe pour la Sainte-Seine. On est au milieu du message, il reste encore peut-être 10-15 minutes, mais prenons le temps. Vous savez, le Seigneur nous a laissé ce signe, nous a laissé ce pain et ce vin comme un souvenir de ce passage sur la terre. Et il a dit, chaque fois que vous burez à la coupe, chaque fois que vous partagerez ce pain entre vous, ben vous annoncerez le nom du Seigneur, vous annoncerez sa mort et sa résurrection. Et c'est ce que nous voulons faire, nous voulons le glorifier encore par ces signes. Vous savez, ces signes, pour les partager, pour prendre ce repas, parce que c'est un repas, pour prendre ce repas, il faut avoir saisi la main de Christ. Il faut faire partie de ces enfants de Dieu. On ne prend pas ce repas à la légère. Et moi, je vous interroge j'encourage, si vous n'avez pas fait dans votre vie ce pas vers le Seigneur, ne prenez pas ce pain. Réfléchissez-y personnellement, mettez votre vie en règle avec Dieu, acceptez ce message, acceptez l'invitation que Christ veut rentrer dans votre vie. Et puis, si vous faites ce pas, à la fin du culte, ben venez prendre ce repas avec nous tous ensemble. Donc j'invite Pierre à prier pour le pain.
Oui Seigneur, merci pour ton corps meurtri, merci pour cette humilité dont tu as fait preuve, pour ce chemin jusqu'à la croix, tu as gravi cette montagne sur les genoux Seigneur, ensanglanté, battu à mort Seigneur, pour que nous on puisse te suivre sur ce chemin jusqu'à la vie éternelle. Merci vraiment pour ton sacrifice, merci de nous réconcilier avec le Père Seigneur. Amen. Amen.
Oui, notre Dieu, nous voulons vraiment nous laisser pénétrer tous, chacun individuellement, par ta présence ici. Tu es venu nous rencontrer aussi dans ce lieu. Par ton Saint-Esprit, tu veux ouvrir nos cœurs, tu veux pénétrer dans nos cœurs des fois qui sont durs comme cette pierre, Seigneur. Oui, dans ces cœurs qui sont des fois durs, tu veux aussi graver de ton doigt pour que ta parole, ton esprit vienne transformer la vie, Seigneur. Oui, nous voulons te prier pour tous ceux ce matin encore qui hésitent, qui sont dans le... et qui résistent, Seigneur, pour des raisons que tu connais. Mais nous savons aussi qu'il y a des combats et nous voulons, au nom puissant du Seigneur Jésus, éloigner vraiment tout esprit méchant, tout esprit menteur, tout esprit d'incrédulité ce matin qui serait là et qui empêcherait que ta parole puisse pénétrer et être semée dans les cœurs, Seigneur. Oui, nous invoquons ta présence, nous demandons que tu interviennes ce matin encore dans nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus, amen.
Oh oui, Seigneur, on est dans la joie parce que ce matin, tu nous invites à ta table.
Ouais, Seigneur.
Et Seigneur, c'est une rencontre qu'on fait avec toi de nouveau. Donne-nous de venir souvent, de répondre souvent à ton invitation pour que tu nous remplisses de l'amour dont tu es le Créateur, afin qu'on aime les autres. Donne-nous aussi d'inviter les autres. Fait que l'amour règne au milieu de nous, autour de nous et avec nous, et que ce soit toi qui sois l'animateur, le créateur de tout ça, et que tu nous fasses du bien. Amen.
Amen. Voilà, pendant qu'on récupère les gobelets, ouais, je voudrais continuer, parce que après cet épisode finalement douloureux de la croix, vous savez, c'était un épisode douloureux aussi pour Dieu, pour le Père, qui a accepté finalement de voir souffrir son Fils. On sait que c'est un Dieu de miséricorde, c'est pas un Dieu qui veut juger, mais la loi était là, et il a respecté aussi ses engagements. Et pour notre plus grande grâce à nous et plus grande bénédiction, c'est pas sur nous que ce jugement est tombé. Et dans sa quête finalement de toujours plus s'approcher des hommes, dans sa volonté toujours plus pour Dieu de venir s'approcher, de venir, il a dit mais il faut encore aller plus loin. Et donc il a dit je vais faire mon habitation maintenant dans les hommes, je vais envoyer mon esprit. Ce n'est pas seulement un Dieu sauveur, mais c'est un Dieu papa, c'est un Dieu qui vient là, en nous, nous donner, nous adopter comme ses enfants, mettre son nature, sa nature divine en nous, et il le fait par le Saint-Esprit. Plus on s'éloigne de la création, de la date de la création, plus Dieu s'approche de ses créatures. Et maintenant, nous sommes dans une étape où Dieu, par le Saint-Esprit, habite en nous, veut habiter en chacun de ses enfants. Et jusqu'au jour où, dans le ciel, alors là, on sera carrément face à face à lui, on le verra. Pour le moment, oui, on voit, on discerne, on sent, Dieu est bien là, mais notre nature humaine nous empêche de voir toujours cette présence de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons toujours plus besoin de l'honorer, de le glorifier, pour sentir en retour ces bénédictions que Dieu veut nous faire déverser sur chacun de nous, ses enfants. Et donc, on est porteur en nous, à notre tour, d'un message. Nous sommes, nous, porteurs de ce message de l'Évangile. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais on est des ambassadeurs particuliers. Souvent, les ambassadeurs ne sont porteurs que de courriers. Mais nous ne sommes plus porteurs de courriers écrits avec de l'encre. Nous ne sommes plus des spécialistes de la loi qui imposent les choses sans en donner la capacité de les réaliser. Nous sommes des spécialistes de l'esprit. Cet esprit qui a gravé dans nos cœurs les commandements de Dieu. Et en conséquence, c'est que par nos vies toutes simples, mais combien abondantes, nous apportons la bénédiction en amenant avec nous la présence de Dieu. Là où nous nous trouvons, on amène la présence de Dieu. Et forcément, le goût des choses, les goûts de la vie, ben, aura une toute autre saveur pour nous et puis aussi pour ceux qui nous entourent. Au milieu des tempêtes, de l'obscurité des vies, nous apportons la lumière, car nous sommes à notre tour la lumière et la sphère dans laquelle on évolue. Les ténèbres s'éloignent. Donc on a vu ça avec les jeunes tout au long de cette semaine, des rencontres que Jésus a faites, où c'est soit lui, soit les disciples, ou encore un tout petit enfant qui a été un moyen de transformation de la situation de vie. Et toutes ces rencontres que Jésus a faites, lorsqu'il voyageait en Israël, ne sont pas passées inaperçues. Elles ont été l'occasion de miracles, et de changement radical de situation. Et puis pour terminer, j'aimerais prendre l'exemple encore d'une rencontre formidable que Jésus a faite lorsqu'il était là. C'était à Capernaum. On va lire le passage. C'est dans Luc 5, verset 17. C'est cet épisode où il y a le paralytique qui est apporté par quatre de ses amis au travers du toit de la maison. Et je vais lire ce passage. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de la Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et le placer sous ses regards. Et comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Mais quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché. Il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu, et tous étaient dans l'étonnement, glorifiés Dieu, remplis de crainte. Il disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Voilà donc cette rencontre de Jésus avec le paralytique. Il y avait donc une maison bondée avec un escalier extérieur. Il y avait toute une foule qui était là et puis un paralytique qui était accompagné de quatre hommes. Il y avait tout un beau petit monde qui était là. Et puis plus particulièrement, il y avait tous ces spécialistes de la loi qui s'étaient déplacés de tout Israël jusqu'à Capernaum vraiment pour vérifier ce qu'ils avaient entendu dire au sujet de Jésus, au sujet de ses guérisons, tout ça c'était vrai et quelle était la portée. Et tous ces spécialistes sont donc venus avec l'intention de reprendre et de critiquer Jésus. Et toute une foule était amassée, rendant impossible l'accès à cette maison. Au passage, est-ce qu'il ne nous arrive pas, nous aussi, des fois, d'encombrer avec nos sujets de réflexion des fois stériles et qui font perdre du temps et qui sont freins aux bénédictions que Jésus veut déverser sur nous? Mais ses amis, là, ne se découragent pas. Et en apportant le paralytique, donc une paralytique, c'est une personne qui est dans une situation qui est bloquée. Et depuis combien d'années cet homme était dans cette situation? Combien de personnes nous connaissons, ou nous-mêmes, où on est dans des situations de blocage? On n'a pas de solution à apporter. Et la solution, elle est donnée là par ces quatre hommes. Par tous les moyens, ils cherchent à le présenter à Jésus pour que sa situation vraiment là soit transformée. Avec zèle et audace, ils montent sur le toit, ils vont démonter le toit et ils descendent le paralytique pour que Jésus le rencontre. Ces cinq hommes-là, ils n'ont rien à voir avec la foule. Au contraire, ils se sont sortis de cette foule. Et ils ont cherché un autre chemin. Certes, le chemin qu'ils ont choisi, il n'était pas facile. C'est un chemin qui a été étroit. Mais ils se l'ont fait, ce chemin. Ce chemin-là, c'est celui de la foi. C'est ce que nous devons recevoir, cette foi, cette conviction, cette confiance en Dieu qu'ils avaient. Néanmoins, leur démarche déclenche tout un processus de pardon et de guérison. Donc, l'exemple de ces cinq hommes, parce que le paralytique, bien sûr, était concerné, à faire preuve d'audace pour arracher un miracle lorsque nous sommes face à une situation de blocage. Cet exemple-là nous encourage à faire preuve vraiment de zèle et d'audace. La pureté en se mettant à l'écart de la foule, cette foule qui est loin bien souvent d'être inspirée. L'intercession, porter une personne, c'est intercéder pour elle. Le combat dans la prière, le jeûne, sont tant de moyens audacieux pour ouvrir les écluses des cieux. Au travers de cette action pleine de zèle, ben oui, Jésus remarque la foi. La foi de ces hommes, et c'est justement ce qui débloque la situation. Remarquez bien que la raison de la paralysie de cet homme ne les intéresse pas à haute mesure. Ils n'ont qu'une certitude, c'est que de le présenter devant Jésus et la situation sera débloquée. Néanmoins, il semble que le péché et l'absence de pardon soient la cause de ce blocage dans cette situation. Jésus dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Le pardon de Dieu, le pardon aussi réciproque entre nous, entre hommes, est bien souvent la clé pour débloquer les situations qui sont figées. Et Jésus vient à notre rencontre pour nous pardonner et rétablir aussi cette relation avec lui. Moi, je vous encourage encore ce matin, peu importe ce que pense la foule. Bien que Jésus veuille rétablir une relation avec chacun, il remarque et bénit ceux qui en sortent pour venir le rencontrer. Et voilà pourquoi encore j'insiste ce matin, mais je vous encourage à sortir de la foule. Vous savez pourquoi les jeunes ont plus de facilité à donner la main de Dieu? Parce que c'est plus facile pour eux de sortir de la foule. Ils n'ont pas le carcan, ils n'ont pas l'histoire, ils n'ont pas les a priori, notre fameuse culture. Mais cette culture-là, elle nous canalise dans un seul sens. On a la pensée unique qui nous régit. La parole nous dit que, Jésus lui-même a dit ça, hein, large est le chemin qui mène à la perdition. Voilà, on croit être bien renseigné, bien cultivé, bien établi dans notre tête. Mais si on va tous comme ça dans un truc bien établi, mais qui est large, et qu'on ne sait pas où ça va, on va à la perdition. Et Jésus rajoute, étroit est le chemin qui mène à la vie. Le chemin étroit, c'est celui de sortir de cette foule. Ce n'est pas facile de sortir de cette foule. Nous, enfants de Dieu, ici, qui vivons notre foi tous les jours, ce n'est pas facile. Parce que oui, on subit les moqueries, on est différent, on ne veut pas faire les magouilles des uns et des autres. Mais c'est la solution. Osez, prenez votre courage, sortez de cette foule. Sortir de cette foule et choisir cette vie, c'est l'assurance d'une vie abondante, d'une vie pleine de bénédictions. Et en retour, cet esprit en nous, nous aide aussi à bénir et à encourager chacun des personnes, des situations aussi que nous côtoyons et que nous croisons. Et puis la conséquence de ça, vous avez vu, chacun repart en louant Dieu et en étant émerveillé des situations, de ce miracle, de la façon dont Jésus a agi. Voilà, Jésus est vivant. Jésus est ce roi maintenant victorieux dans nos vies. Il veut prendre la main. Il veut que nous soyons tous à 100% tournés vers lui. C'est ce que nous voulons vous laisser ce matin. C'est ce que le Seigneur veut nous rappeler encore aujourd'hui pour chacun de nous. Vous savez, enfants de Dieu, non-croyants, on a des progrès encore à faire. On est dans un monde où le chemin peut-être s'élargit toujours plus, mais le chemin étroit, nous avons à y tenir ferme et à y rester. Oui, notre Dieu, voilà, merci pour ta parole. Merci pour ce plan parfait pour nous, Seigneur. Merci parce que tu es venu à notre rencontre et tu veux maintenant que nous saisissions ta main. Oui, nous voulons que ce message de l'Évangile puisse continuer à convaincre, à sortir ces hommes, ces femmes que tu as toi-même créées, que tu as toi-même désirées, aimées, que tu considères comme précieuses et uniques. Tu désires maintenant les prendre la main pour les sortir de ce chemin qui mène à la perdition. Oui, nous voulons te prier que tu agisses encore ce matin, force, puissance, conviction par ton esprit. Et nous sommes heureux de te connaître et de pouvoir encore repartir plein de joie et avec le cœur rempli de louanges pendant cette semaine. Oui, nous voulons continuer à t'élever, à t'adorer. Amen. Alors, je vais passer aux annonces, mais j'ai laissé là. Donc, les annonces de la semaine, ouais. Voilà, mardi, jeune adulte chez Aurélie, à 20h30, donc à Gex. Mercredi 20, ah oui, il y a une affiche ici, c'est le groupe de jeunes, les Light Clubbers de Saint-Genis, qui a une rencontre de 17h à 20h, c'est ça? Hein? Ah, 17h et 20h, c'est un spectacle. D'accord, moi j'ai, ok. Samedi 23, le cross-training continue pendant tout l'été, sous l'animation de Pierre. On n'est pas fatigué, on continue. Et puis dimanche prochain, bien sûr, le culte ici encore, bien volontiers, à 10h30. Est-ce qu'il y a Diana Philippe ici? Bon, ben, voilà, écoute, je ne te connaissais pas. Bienvenue, tu as un mot à nous dire, non? Ben, je sais pas, j'ai un petit... Donc, Diana Philippe est prof de piano ici, qui vient enseigner le piano de temps en temps la semaine. Et puis, tu voulais nous donner une petite info? Mais viens, avance-toi. Oui. Viens, viens là. Oui, oui. Non, mais prends le micro. Allez, on a encore un peu de temps.
Bonjour à tous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Devant le micro. Oui. Alors, comme vous avez déjà entendu, je m'appelle Diana Philippe. Je suis à Genève depuis environ 4 ans. J'ai un bachelor et un master en piano et pédagogie musicale. Cet été, je fais un cours à Jacques Delcroze, je ne sais pas si vous connaissez. Ça parle un peu de rythmique, mouvement, improvisation. Et donc, cette année, j'ai enseigné dans deux écoles, le piano et la musique. Et puis, j'enseigne une fois par semaine ici. Et je vous remercie pour cette occasion. Et, donc, les cours de piano, ça va, la durée, ça varie en fonction d'âge et de niveau de l'élève. Pendant les cours, j'intègre le solfège, l'improvisation, l'harmonie et puis aussi l'accompagnement aux chansons. Et puis tous les styles sont abordés. Ça peut être aussi musique de l'église ou jazz ou toutes sortes de styles. Puis, autre chose. Oui, pour en tant qu'élève du conservatoire, j'étais un petit peu élevée dans ce style classique, un peu plus sérieux. Donc, j'envisage de faire de la musique de bonne qualité, mais je veux donner aux élèves les moyens d'apprendre, de connaître, de sentir et puis de transmettre la musique d'une façon qu'ils se réjouissent, qu'ils sentent la musique. C'est pas que juste de faire sérieusement, mais aussi d'apprendre, de transmettre avec la joie. Puis, je pense que c'est... Oui, j'organise aussi deux récitals par année, notamment au mois de décembre et de juin. C'est à Genève, ça se passe à Genève, à l'église du Réveil, c'est un piano, grand piano à queue. Puis je trouve que c'est un bon moyen de montrer publiquement ce qu'ils ont appris, puis c'est mon expérience. Et j'ai avec moi le formulaire d'inscription, si vous voulez savoir plus de détails, je peux le laisser derrière pour lire. Oui. Et puis merci encore une fois pour cette opportunité de pouvoir enseigner ici et que Dieu vous bénisse. Merci.
Mais merci. Voilà, merci. Voilà des nouvelles de Roland. Donc on a parlé des fois aussi de situations de blocage. Des fois, voilà, la santé aussi et des fois nous bloque. Et Roland, là, pour le moment, est bloqué toujours avec ce problème de cœur. Et donc mercredi prochain, il a un rendez-vous avec la cardiologue à Danmas pour la suite envisagée. Donc on peut continuer encore à prier pour lui. Je prierai aussi pour lui et puis aussi pour Didier, parce que Didier lui est aussi toujours hospitalisé. Mais depuis 15 jours, donc il est hospitalisé depuis 15 jours et il a aussi ses infections, donc problèmes d'infection qui ont été résolus. Mais quand même, avec les médecins, il a décidé, donc avec Loredan, d'être équipé d'une sonde permanente, vraiment pour permettre d'être correctement alimenté. Donc il a cette intervention sérieuse quand même qui est prévue mardi prochain. Donc on va aussi prier pour eux, tous les deux, prier et puis penser peut-être à ces jours-là, mercredi, mardi, prier pour eux. Oui, notre Dieu, je veux vraiment intercéder encore. Nous voulons intercéder pour Roland, Seigneur, pour ce problème de cœur. Et tu vois, les médecins se posent aussi des questions, Seigneur, et nous voulons te remettre particulièrement mercredi cette rencontre avec la cardiologue. Nous voulons te prier vraiment que tu dénoues ce problème, cette situation, et que tu donnes aussi la guérison vraiment dans son cœur, Seigneur. Oui, nous invoquons ta main vraiment bénissante, ta main guérissante vraiment sur ce cœur, Seigneur. Oui, merci parce que tu veux le toucher, tu veux aussi débloquer sa situation. Oui, nous voulons te prier aussi pour cette santé qui s'est dégradée pour Didier, Seigneur, et merci pour ce progrès, pour ce mieux. Nous voulons te louer parce que là aussi, nous pensons à lui, nous prions pour lui, et tu as permis que maintenant un soin plus sérieux peut être entrepris, et nous voulons te prier vraiment pour cette opération de mardi, pour que là aussi, toute chose soit béni, que tu interviennes avec force, puissance aussi, pour qu'enfin il puisse reprendre des forces et s'alimenter normalement. Oui, nous voulons te rendre grâce, encore te louer. Nous voulons proclamer là, dans ces deux situations, que tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui fait des miracles. Et nous voulons que te voir agir et participer ainsi, mais en te glorifiant, en t'honorant toi, en t'élevant encore au-dessus des cieux, pour que tu interviennes et tu te manifestes à notre égard, tel que nous le proclamons, tel que nous voulons t'élever dans ce monde. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Donc cette semaine est finie. C'est vrai qu'on a tous été bénis. Moi, je vous bénis aussi, chacun. On est appelé à entendre ces bénédictions. Et moi, je veux vous bénir au nom du Seigneur Jésus. Voilà, croissez, entendez cette parole, que cette parole aussi ne revienne pas à Dieu, pas à Jésus, sans qu'elle produise un effet. Amen.